Bonsoir Rémi. Eh bien, ce soir, je vais m'attarder sur une découverte assez récente et dont vous avez sûrement déjà entendu parler la semaine dernière, puisqu'il s'agit de la découverte de cette exoplanète autour d'une étoile très proche de la nôtre.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu.
En janvier 2016, les observations faites sur une étoile peu brillante dans la constellation du Verseau avaient suscité pas mal d'attention. Les chercheurs d'alors avaient conclu qu'au moins une exoplanète orbitait autour de cette étoile, sans conclure quant au nombre total d'exoplanètes dans ce système stellaire. Après plusieurs mois d'observation et en utilisant des télescopes spatiaux et au sol, ces astronomes assidus ont enfin séparé les différents corps stellaires orbitant autour de leur étoile. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une ni deux, mais bien sept exoplanètes qui gravitent autour de la nouvelle star de la banlieue solaire.
Et du coup, comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à les détecter avant ?
Eh bien, c'est pas aussi simple. Leur étoile est élégamment nommée TRAPPIST-1, est ce qu'on appelle une naine blanche, c'est-à-dire une étoile très petite et très froide. À peine plus grande que Jupiter, et tout juste 2300 degrés Kelvin, soit environ 2000 degrés Celsius. C'est peu pour une étoile, d'autant plus que sa température va influencer l'intensité de la lumière émise. Observer TRAPPIST-1, c'est plus dur que d'être ébloui par les phares de voiture et voir malgré tout le reflet des diodes du tableau de bord sur le visage de son conducteur. C'est pourtant autour de ces étoiles banales que les astronomes s'accordent aujourd'hui à dire que les chances de trouver des exoplanètes habitables sont les plus grandes. En effet, elles sont bien plus nombreuses et communes que leur sœur géante rouge, en plus d'avoir une espérance de vie beaucoup plus grande et ne mourir tranquillement sans stériliser la galaxie sur plusieurs années-lumière de diamètre à leur mort. Mais les observer demande évidemment beaucoup plus de temps et d'attention.
Et trouver des exoplanètes près d'étoiles aussi petites, j'imagine que ça doit être incroyablement compliqué.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu presque un an pour les distinguer. Contrairement à ce qu'on a pu entendre ici et là, la NASA n'a pas fait seule cette découverte, mais avec l'aide de l'Observatoire austral-européen, plus connu sous le petit nom d'ESO. Ces recherches ont été menées par une équipe de Liège qui télécommandait depuis la Belgique les télescopes TRAPPIST Nord dans l'Atlas marocain et TRAPPIST Sud au Chili, regroupés sous le doux acronyme de SPECULOS. TRAPPIST 1 avec ses 7 nains de planètes, TRAPPIST A, B, C, D, F, et G et H, se situe à 12 parsecs, c'est-à-dire 3,7 millions de milliards de kilomètres de notre système solaire. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle va la masquer en partie, comme lors d'une petite éclipse solaire, ce qui diminuera d'environ 1% la quantité de lumière qu'on en recevra. C'est ce qu'on appelle le transit d'une planète. Selon la durée du transit et la diminution de la lumière, les astronomes peuvent déterminer la taille et la durée d'une orbite de chaque planète. Et le moins pour qu'on puisse dire, c'est un système très compact. TRAPPIST H, la plus éloignée des 7 sœurs, ne l'est que d'une distance de 6 centièmes de celle séparant la Terre du Soleil.
Ça fait quand même très très proche, ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une chance qu'on puisse y observer la vie ?
Heureusement, oui. Comme TRAPPIST 1 est assez froide, ces planètes sont dans une zone qui pourrait abriter de l'eau sous forme liquide. En fait, pour détailler un peu ce cortège planétaire, les chercheurs parlent dans la publication de 6 planètes rocheuses de dimensions semblables à la Terre. En utilisant des simulations météorologiques, ils ont conclu que B, C et D étaient trop proches pour accueillir de l'eau liquide et H trop éloignés. Reste encore E, F et G. Mais même si de l'eau peut couler à la surface, cela ne signifie pas forcément que la vie s'y est développée. Pour le savoir, le plus simple est de regarder comment est modifiée la lumière qui passe dans leur atmosphère. On sait depuis longtemps que la composition chimique d'un milieu va changer la lumière qui la traverse, et en particulier, on sait détecter l'oxygène, qui est un bon marqueur biologique. Les instruments actuels sont encore incapables d'une telle prouesse, et pour en savoir plus, il faudra attendre le lancement de James Webb, le prochain télescope spatial infrarouge de la NASA et des agences spatiales européennes et canadiennes, en octobre 2008. Ajoutez encore 6 mois pour relier les appareils, et nous pourrons peut-être enfin avoir une réponse à l'éternelle question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?»
Merci beaucoup Gaël, comme quoi les biologistes ne sont pas les seuls à pouvoir étudier la durée du transit. Merci de nous l'avoir appris ce soir. Alors ça vous fait rien ça, la possibilité d'une vie dans l'univers
Oh si, c'est beau. Implanter des toilettes ailleurs que sur Terre.
Eh bien, évidemment, il n'y a qu'à ton esprit que ce genre de réflexion peut venir. On pourrait aussi y implanter le poulet dont tu es fan au-delà de toute mesure. Et nous allons tout de suite te laisser t'exprimer peut-être sur ce sujet et pourquoi pas sur d'autres, puisqu'après tout, c'est un journal de la culture et pas de l'agriculture. Il est presque 21h sur Transistor, le journal de la culture avec Raph.